Vous écoutez Séquence Parc sur la fréquence 107 et sur www.radiobartas.net. Séquence Parc, c'est l'émission du Parc national des Cévennes, un nouveau rendez-vous chaque mois pour vous parler de l'actualité du Parc national. Cette émission est diffusée une semaine le mardi à 10h, la semaine suivante le jeudi à 13h. Eh bien bonjour amis auditeurs de Radio Bartas. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Séquence Parc qui sera aujourd'hui consacrée à une actualité, comme toujours, mais aujourd'hui il s'agira de l'actualité en matière d'éducation au développement durable, d'éducation à l'environnement et au développement durable dans les écoles du territoire du Parc national. Et plus spécifiquement d'un nouveau dispositif, les aires terrestres éducatives, dont nous découvrirons les tenants et les aboutissants. Alors, pour parler de cette actualité en matière d'EEDD, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Rothenburger, qui est enseignante à l'école de Bédouès-Cocurès.
Bonjour.
Je suis également accompagnée d'Éléonore, qui est une nouvelle collègue du Parc national. Bonjour Éléonore.
Bonjour Catherine.
Voilà, qui est donc enseignante animatrice au Parc et chargée plus spécifiquement des relations entre les écoles et le Parc national des Cévennes. Et puis j'accueille également Laurent Bélier, une personne connue des auditeurs, qui est technicien accueil et sensibilisation au Parc national. Bonjour Laurent.
Bonjour Catherine.
Voilà, alors cette éducation à l'environnement et au développement durable, elle est l'une des missions des parcs nationaux, une mission importante. Cette année, autrement dit l'année scolaire 2019-2020, elle est plus spécifiquement consacrée à ce qui marquera beaucoup l'année 2020, c'est-à-dire la préparation des 50 ans du parc national. Et je vais donc demander à Éléonore de nous dire un peu ce que les écoles, la manière dont les écoles primaires du territoire vont contribuer à cette célébration des 50 ans.
Alors en fait, cette année, donc, on n'est pas parti sur quelque chose d'exceptionnel, vu que vous l'avez bien dit, on fête les 50 ans du Parc national des Cévennes. Donc pour cela, donc, on a construit une offre particulière, unique, donc de recherche et de construction. Donc le parc a fait réaliser donc, des coffres trésors, en fait, qui seront apportés dans chaque classe participante au projet, donc en début d'année 2020, en janvier. Donc cette malle au trésor sera scellée et contiendra du matériel pédagogique pour répondre donc à des énigmes qui seront envoyées ensuite tous les 15 jours à partir donc de la première quinzaine de janvier. Pour pouvoir ouvrir cette malle qui sera scellée, cadenassée, les élèves devront répondre déjà donc en amont donc à 7 devinettes, donc qui seront en relation avec 7 espèces emblématiques du territoire, donc qu'on le connaît, le vautour, le castor, les pollinisateurs par exemple, entre autres. Ensuite, un agent du parc national donc interviendra en classe en janvier et viendra donc du coup vérifier les devinettes, donc les réponses aux devinettes des élèves et donc donnera le code pour pouvoir ouvrir cette malle. Voilà. À partir de là, on parle donc des 7 énigmes que je vous ai annoncées plus tôt, qui seront donc tous les 15 jours envoyées aux écoles. Ces 7 énigmes, donc autour de thèmes, des thèmes donc en lien vraiment avec l'histoire du parc national des Cévennes et pour découvrir du coup le territoire. Donc on a un thème autour de la nuit. Un thème donc autour de contes et rencontres, des histoires pour raconter l'histoire. Un thème autour des forêts. Un thème autour donc des insectes qui butinent et les plantes qui fleurissent, donc qui mettent les pollinisateurs à l'honneur. Un thème autour de l'architecture, les pierres qui bâtissent nos paysages, les peuples de l'eau et du côté des troupeaux, l'agropastoralisme. Voilà. Donc ces énigmes seront résolues donc en lien avec la démarche d'investigation, qui met en lien les problématiques, des hypothèses, des recherches, expérimentations que pourront mener les élèves. Et donc tout le contenu pour répondre aux énigmes se trouvera dans la malle. Voilà, d'accord. C'est ça. En lien avec cela, donc, les élèves pourront choisir une mascotte de classe qu'ils garderont tout au long de la période 4 et 5 de l'année scolaire. Une mascotte en lien avec un des thèmes, une espèce emblématique, une autre espèce emblématique du parc, où ils travailleront plus particulièrement dessus et où ils valoriseront le travail sur cette mascotte en fin d'année lors d'une belle journée de rencontres et de partage où en fait des itinéraires de randonnée seront proposés ponctués de clins d'œil par rapport aux 7 énigmes, voilà. Et donc ce sera l'occasion bien sûr de faire un gros goûter d'anniversaire, de souffler les bougies des 50 ans du parc, d'échanger, voilà.
Bon, super. Je voulais vous demander si tous les niveaux d'une même classe, enfin d'une même école, pardon, sont concernés. C'est une école qui s'engage ou c'est une classe qui s'engage?
Alors en fait, on a envoyé cette offre aux classes comportant des élèves de cycle 3. Voilà.
Vous pouvez nous rappeler le cycle 3?
Donc, cycle 3, on est sur le CM1, CM2.
Voilà. D'accord, ok. Donc, même le goûter d'anniversaire, les tout-petits n'y participeront pas.
Ah, si, on a beaucoup de classes uniques dans le parc, voilà. D'accord. On a cette chance-là aussi. Donc, sans problème, voilà, il suffit simplement que la classe comporte des cycles 3.
D'accord. Donc, un beau programme bien, oui, assez différent de ce qui se passe les années précédentes pour cet anniversaire. Et donc, du coup, ça sera concentré sur la période juin.
C'est ça, juin. Voilà.
D'accord, très bien. Merci. Je parlais tout à l'heure du fait que nous évoquerions également un dispositif expérimental qui se met en place progressivement sur le territoire du parc national. Et je vais laisser Laurent nous expliquer ce que l'on doit peut-être commencer par savoir sur ces aires terrestres éducatives avant de parler plus spécifiquement de ce qui se passe sur le territoire du parc.
Oui, alors du coup les aires terrestres éducatives, c'est si on fait un petit peu d'histoire récente, c'est un dispositif qui est né en 2012 dans les Marquises, en Polynésie française. Et ce dispositif, il repose sur une rencontre entre des enfants qui étaient scolarisés au bord de la mer et des scientifiques qui faisaient une prospection océanographique et du coup qui ont identifié là-bas des problèmes en lien avec la biodiversité, son érosion, etc. Et quand ils ont présenté l'érosion de cette biodiversité marine aux élèves, les élèves se sont dit « mais peut-être qu'on pourrait faire quelque chose ». Peut-être qu'avec vous, les scientifiques, on pourrait développer quelque chose qui fasse que nous, les enfants, on trouve des solutions à notre niveau pour favoriser le maintien de cette biodiversité exceptionnelle. Et du coup, les scientifiques, des éducateurs à l'environnement, l'enseignant et les enfants se sont un peu mis autour d'une table et on réfléchit et on choisit tous ensemble de s'intéresser à un petit bout de plage, c'est l'essence même des aires marines éducatives, donc là on n'est pas encore sur le terrestre, j'y viendrai après, mais du coup ce petit bout de plage il a été prospecté par les enfants, ils y ont identifié la biodiversité qui s'y trouvait, et puis ils ont mis en place un petit plan de gestion à leur niveau pour faire en sorte que les choses aillent mieux pour la biodiversité de ces zones marines. Et ce concept, donc, qui est né en 2012, il a fait écho et au niveau du ministère de l'Environnement, il y a eu, ils se sont dit au niveau du ministère de l'Environnement qu'il serait peut-être intéressant de décliner ce dispositif à une plus large échelle. Et ce qui était confiné aux Marquises a été étendu à l'ensemble des aires marines possibles, des zones littorales possibles. Et donc beaucoup de classes se sont inscrites dans cette démarche-là. Petit à petit, ça s'est fait progressivement. La méthode a été identifiée, a été posée sur le papier et aujourd'hui elle est déclinée pour, sur le marin, 160 classes sur le territoire français.
Donc 160
aires marines éducatives qui sont aujourd'hui en place. Et on s'est dit, notamment pour des zones comme les Cévennes, le littoral il est un petit peu loin, mais pour autant la biodiversité elle a besoin qu'on s'occupe d'elle quand même. Et les enfants, on s'est dit que ça pouvait être, ce type de projet pédagogique pouvait être assez facilement décliné sur les zones un peu plus terrestres. Et donc la méthodologie a été modifié un tout petit peu pour pouvoir être proposé aux écoles qui ne sont pas concernées par le marin, mais qui sont plutôt concernées par des zones de forêt ou des zones de bord de rivière ou ce genre de choses. Et donc, depuis maintenant un an, les aires terrestres éducatives existent. C'est parti d'une exploration avec 5 classes sur le territoire national et aujourd'hui, on est à 50. Et sur ces 50 classes qui se lancent dans l'aventure en 2019-2020, donc sur cette année scolaire, on a la chance d'en compter 5 sur le territoire du parc national. 3 côté Lozère et 2 côté Gard.
D'accord. Donc on verra avec Catherine précisément ce que cela donne en Lozère. C'est un dispositif qui est cautionné par l'éducation nationale, j'imagine.
Tout à fait, c'est un dispositif qui est encouragé par l'éducation nationale, notamment au travers de la labellisation des aires terrestres éducatives. Donc les enseignants qui s'engagent dans ces démarches-là s'engagent dans un projet assez ambitieux. Et au final, lorsqu'ils atteignent la phase de réalisation du plan d'action, ils envoient leur dossier à un groupe de personnes, dont des représentants du ministère de l'Éducation nationale. Donc à différentes étapes, donc à la fin du dispositif, sur cette première année de prospection des enfants sur le terrain, l'Éducation nationale et d'autres participants, notamment le ministère de l'Écologie et l'Agence française pour la biodiversité, se prononcent sur cette labellisation. Mais à toutes les étapes du dispositif, l'Éducation nationale est au courant de ce qui se passe et toutes les actions qui sont menées se font dans un cadre transdisciplinaire, pluridisciplinaire et qui s'appuie sur les instructions officielles de l'Éducation nationale.
D'accord. Alors, on reprendra le fil de notre émission dans quelques minutes. Là, nous allons faire une petite pause musicale et nous nous retrouvons pour continuer de parler des aires terrestres éducatives.
Sur le bord de ma fenêtre, accoudé à l'horizon, je regarde ma planète s'emmêler dans les saisons. Quel heureux arrangement des capharnaüm uniques, réglés on ne sait comment, comme du papier à musique. Si d'aventure je vous déçois, Madame Nature, comme il se doit, promis, juré de vous à moi, je vais changer, que vous soyez au moins une fois fier de moi. Pour nos arbres et nos rivières, nos montagnes et nos banquises, si du haut de nos tours de verre on arrêtait les bêtises,
d'un même abracadabra retapons l'astre magique, réglé on ne sait pourquoi, comme du papier à musique. Si d'aventure je vous déçois, Madame Nature, comme il se doit, promis, juré de vous à moi, je vais changer, que vous soyez au moins une fois fier de moi. À le pôle, nous dit-elle, du rouleau.
À chasser le naturel, il revient au galop.
Pour ce qu'il reste d'animaux, de solennel et de beau, encore se mère le moqueur qui m'invite à lever tête,
délaisser à la bonne heure nos portables et tablettes.
Cette chanson fait le serment de veiller aux cailloux cosmiques.
Régler, oui, mais jusqu'à quand? comme du papier à musique. Hey. Comme du papier à musique. Si d'aventure je vous déçois, madame nature, comme il se doit, promis, juré de vous à moi, je vais changer, que vous soyez au moins une fois fier de moi.
Et bien voilà, après cette petite pause musicale, nous nous retrouvons pour parler des aires terrestres éducatives dans le parc national des Cévennes. Donc Laurent nous disait qu'il y en avait 5, donc 2 côté gare et 3 côté Lozère. Ces aires terrestres éducatives, est-ce qu'elles bénéficient ou est-ce qu'elles sont possibles, en tout cas grâce notamment à l'implication des communes?
Alors oui, effectivement, les communes et les élus sont informés de la déclinaison de ces aires terrestres éducatives, et notamment par l'intermédiaire de sélection du choix des sites, puisque les sites, pour qu'ils puissent devenir aires terrestres éducatives, il faut que les enfants puissent s'y impliquer sur une durée relativement longue. Donc il est proposé dans la méthodologie nationale que ces sites soient plutôt sur le domaine communal, donc dans le domaine public, et du coup ça justifie le fait qu'effectivement les élus soient sollicités à différents moments du projet, notamment au démarrage, pour pouvoir identifier les secteurs sur lesquels les enfants vont pouvoir s'impliquer. Et au-delà de cette implication qui est la réalité pour les 5 écoles, les 5 classes qui s'engagent aujourd'hui dans cette démarche-là, il y en a 2 sur le Gard qui, elles, ces 2 classes, sont également sur des communes qui sont engagées dans des démarches d'atlas de la biodiversité communale. Et l'atlas de la biodiversité communale vise à monter en connaissance sur la biodiversité sur la commune, c'est une première chose, mais aussi à impliquer les habitants dans ces démarches d'acquisition de connaissances. Et on se dit localement que les aires terrestres éducatives, ça peut être la petite contribution la contribution des enfants, puisqu'ils vont concrètement, oui. Ils vont pouvoir s'impliquer, ils vont pouvoir présenter leurs résultats aux élus sur les différentes espèces qu'ils ont découvertes sur leur petite aire terrestre éducative et les actions qu'ils vont mettre en place derrière pour envisager leur maintien.
D'accord. Donc c'est un plus, cette implication dans un ABC. Ça n'est pas non plus donc à ce jour une obligation, puisque en Lozère, par exemple, Catherine, les communes ne sont pas les classes qui s'engagent dans cette aventure ne sont pas forcément sur des communes engagées elles dans un ABC. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe, comment ça va se passer, parce que ça démarre tout juste.
Voilà, donc la proposition nous a été faite en fin d'année dernière. Et nous avons choisi de faire une réponse à 3 écoles, c'est-à-dire un seul projet pour 3 écoles avec une cohérence méthodologique. Alors ces 3 écoles, c'est l'école de Vébron, l'école de Vandalon en Cévennes et puis l'école de Bédouès-Cocurès. Pour nous, c'était très cohérent de faire comme ça parce que d'abord, ce sont des écoles qui ont des structures proches, c'est-à-dire qu'on a engagé des classes multicours. Comme c'est un projet sur 3 ans, ça avait du sens pour nous que les enfants puissent le suivre sur la totalité, enfin qu'une partie, en tous les cas, des enfants puissent le faire. Et puis, également, ces 3 enseignants et 3 écoles qui sont engagés dans le dispositif Grandir avec la nature. Donc ça, c'est un dispositif qu'on a démarré l'année dernière de recherche-action participative. Donc l'idée de ce dispositif, qui est assez large, mais j'en fais un petit résumé, c'est de voir, d'analyser, de recueillir des données, d'analyser ce qui se passe quand on permet aux enfants d'être dans la nature pour y faire classe, pour y faire des activités dirigées ou même des activités libres. Et donc ça nous a semblé très cohérent, la méthodologie d'ATE qui donne une large place à la décision des enfants et le vécu de grandir avec la nature qu'ils avaient déjà eu et qu'on voulait aussi continuer à mener.
Excusez-moi, c'est un dispositif d'éducation nationale, grandir avec la nature.
C'est une recherche action participative qui est copilotée par différentes structures, dont le réseau École et Nature. Je pense que le réel est partie prenante. Alors, je suis pas exactement bien au clair sur la constitution du copilotage, mais non, c'était pas
spécifiquement
éducation nationale. Et donc, concrètement, comment ça va se passer? Comment ça démarre déjà? On a fait une première journée de lancement pour les trois écoles. Donc, les élèves se sont rencontrés, croisés, ont collaboré dans différentes activités qui avaient tout un lien avec la nature et aussi avec l'idée de la collaboration. Ensuite, ça va se décliner dans chacune des écoles avec des méthodologies et des pratiques communes. Mmh. Donc, on s'est beaucoup coordonné avec les collègues. Et les élèves vont d'abord, découvrir de manière sensible deux zones par école. Ensuite, vont la connaître un petit peu mieux à travers un appui scientifique pour mieux identifier la richesse ou les problématiques, en tous les cas environnementales, de ces zones. On s'est à peu près fixé de choisir, alors que les élèves choisissent cet hiver une zone, et ensuite sur tout le printemps ils vont pouvoir réaliser des inventaires avec l'appui du parc bien sûr et puis d'animateurs du réel. D'accord. Alors, ce qui est très important dans tout ça, c'est que toutes les décisions vont être prises de manière collaborative et participative avec les enfants au sein d'un conseil qu'on a appelé le Conseil pour la Terre. Donc, on a commencé à en faire. On se réunit, les élèves se réunissent et ils débattent. Et on a pu voir, grâce au premier conseil, que les débats étaient déjà très riches sur qu'est-ce que ça veut dire polluer, qu'est-ce que ça veut dire respecter. Et donc, on se rend compte que les rapports homme-nature et que toute la philosophie des rapports homme-nature est omniprésente dans les questions que les enfants se posent.
D'accord. Les deux zones entre lesquelles les enfants vont choisir, au départ, elles sont pressenties par des adultes, des enseignants ou la commune. J'ai bien compris, ils déterminent une des deux zones, ils la choisissent pour qu'elle devienne, j'imagine, l'aire terrestre éducative. Mais au départ, ce sont des zones proches de l'école, j'imagine.
Voilà, on avait ces contraintes-là. Il faut que ce soit proche de l'école parce qu'on va y aller très régulièrement.
Et à pied.
Il faut que ce soit de manière prioritaire sur un territoire communal.
C'est ça, ouais.
Donc ça faisait finalement pas mal de contraintes. Il faut que ce soit quand même un petit peu vaste pour qu'il y ait un peu de zones différentes. Donc là, par exemple, à Bétouès, on va leur proposer deux zones, une zone de bord de Tarn et une zone de Châtaigneraie.
D'accord. Et ensuite, ce sont eux qui décideront.
Voilà, ensuite, ils décideront sur quelle zone ils veulent vraiment mettre le zoom, la connaître mieux. Et puis, la labellisation, ce sera quand on aura vraiment tous les éléments pour prendre une décision éclairée, raisonnée, et faire une proposition de gestion qui n'est pas du tout déterminée à l'avance. Là. Elle va vraiment se construire avec les enfants.
Donc on a dit que c'est des projets sur 3 ans, il y a à peu près une année scolaire pour arriver à la labellisation d'aire terrestre éducative, et après les 2 autres années, c'est pour la mise en œuvre du petit plan de gestion.
Voilà,
d'accord.
On se donne du temps pour le mettre en œuvre, peut-être essayer d'évaluer déjà un petit peu ce que ça produit.
Mm-hmm. Parfait. Vous avez prononcé le nom du réel. Peut-être qu'il faudrait expliciter le. Tout le monde peut-être ne connaît pas ce qu'est le réel.
Le réel, c'est le réseau d'éducation à l'environnement de la Lozère, qui depuis quelques semaines est labellisé Centre permanent d'initiative pour l'environnement.
Donc c'est CPIE,
pour faire des acronymes. Et du coup, ils ont vocation à fédérer les associations qui œuvrent dans le champ de l'éducation à l'environnement. Et du coup, le parc national s'est rapproché effectivement du réel 48 côté Lozère, mais aussi de la MNE, de la Maison de la Nature et de l'Environnement côté Gard, qui joue le même rôle dans le Gard, pour accompagner les enseignants dans ces démarches-là de mise en œuvre de leur aire terrestre éducative. On est vraiment sur un binôme qui se met en place entre un éducateur à l'environnement et un enseignant qui ensemble œuvrent pour faire aboutir ce dispositif et faire aboutir cette labellisation au travers d'une démarche d'investigation qui se déroule sur toute une année scolaire effectivement. Mmh.
Le rôle du parc dans ce dispositif, Laurent, tu peux nous en dire deux mots?
Le parc a été un peu instigateur de la démarche auprès des enseignants d'une part et des réseaux d'éducation à l'environnement locaux, et se positionnera comme un peu spécialiste de certains groupes d'espèces pour pouvoir éveiller la curiosité des enfants sur les oiseaux, peut-être, si les enfants le décident, sur les insectes, sur tout un tas sur les différents groupes qui peuvent composer la biodiversité locale, et pour essayer de mettre les enfants en situation d'être autonomes aussi dans leur interprétation de l'environnement, mettre en place des petits protocoles de suivi. Comment est-ce qu'on peut faire pour savoir quels sont les oiseaux qu'il y a sur notre aire terrestre éducative? On peut leur ouvrir les yeux sur les oiseaux qu'on voit, mais il y a ceux qu'on voit pas et qu'on peut peut-être mettre en évidence d'une autre manière, par exemple.
D'accord. D'accord. Donc en 2020, des écoles bien occupées, soit par la préparation, soit par les énigmes des 50 ans, soit par l'étude de leur future aire terrestre éducative. Est-ce qu'il y a des écoles qui font les deux, Éléonore?
Oui, il y a des écoles qui sont
très
engagées,
courageuses. Hein.
Oui, très courageuses, notamment Catherine, donc c'est inscrite aussi voilà. À l'offre des 50 ans du parc. Je pense que mis à part ça, c'est l'occasion de faire un lien aussi donc avec ces aires terrestres éducatives, parce que on est sur un but, enfin le but du coup est de découvrir la biodiversité, de la protéger. Il y a aussi donc un travail sur la relation homme-nature, comme on le disait tout à l'heure, également un travail sur l'histoire du territoire, la découverte d'histoire du territoire. Et du coup, je pense que de coupler ces aires éducatives avec cette offre 50 ans donne vraiment du sens, voilà, pour les enfants.
Parfait. Donc une très belle année 2020, voilà. Pleine de surprises, de sens, avec un beau goûter d'anniversaire à la clé.
C'est ça.
Pour résumer. Bon, mais on arrive au terme de notre émission, sauf s'il y a des regrets, des envies d'ajouter quelque chose. Non. Eh bien, écoutez, il me reste à remercier chacun des trois participants à l'émission. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine émission Séquence Parc. Merci, à bientôt. C'est la fin de Séquence Parc. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site www.radiobartas.net.